12e. Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Laurent Douzou, je vous propose, pour commencer, de partir en Algérie dans les Aurès avec Germaine Tillon. Elle vient d'obtenir son diplôme de l'Institut d'ethnologie qui existe depuis très peu de temps. Il a été créé en 1925. Germaine Tillon a été l'élève de Marcel Mauss, c'est son directeur de thèse. Oui. Elle est donc fraîchement diplômée et elle choisit l'Algérie pour son premier voyage d'études. L'Algérie est alors un département français où vivent différentes tribus berbères que cherche à rencontrer Germaine Tillon.
Écoutez, quand je suis allée en Algérie, c'était en 34, j'y étais vraiment par curiosité. Eh bien, j'étais tout de même à 14 heures de cheval d'une prise de courant, par exemple. Il est certain que j'avais évidemment aucun moyen d'éclairage, que j'ai habité pendant un certain temps sous une tente, mais c'était une tente qui était sur une pente extrêmement rude. Et sur laquelle, quand il pleuvait, ce qui n'arrivait pas souvent, mais quand ça arrivait, c'était très violent. Et moi, je me disais, bon, oui, mais là, je suis à côté d'une belle source, une source si belle. Elle était plus grosse que mon bras. Et elle jaillissait de rochers. Et il n'y a rien au monde de plus beau, de plus envoûtant, de plus enchanteur qu'une source qui sort d'un rocher. Dans un pays saharien, c'est une merveille du monde. Il y avait donc à ce moment-là deux populations. Une population qui était, disons, musulmane. C'était au fond à ce moment-là le caractère le plus marquant, parce que les gens ne se disaient pas algériens. Ceux qui se disaient algériens étaient d'origine européenne. Et ceux qui n'étaient pas d'origine européenne se disaient musulmans. Et bizarrement, les gens qui étaient d'origine européenne les appelaient les Arabes. Alors que la plupart n'étaient pas du tout arabes, et même quelques-uns ne savaient pas un mot d'arabe. Et ce qu'on a appelé les tribus, j'ai plutôt envie d'appeler ça une petite république, car c'était déjà très démocratique. Bon, c'était donc une démocratie comme ont été les premières démocraties grecques, c'est-à-dire des clans qui sont d'unité familiale, obéissant aux représentants de l'ancêtre, et d'autant plus forts qu'ils ont beaucoup d'hommes armés. Pour les représenter.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Laurent Douzou, je vous propose, pour commencer, de partir en Algérie dans les Aurès avec Germaine Tillon. Elle vient d'obtenir son diplôme de l'Institut d'ethnologie qui existe depuis très peu de temps. Il a été créé en 1925. Germaine Tillon a été l'élève de Marcel Mauss, c'est son directeur de thèse. Oui. Elle est donc fraîchement diplômée et elle choisit l'Algérie pour son premier voyage d'études. L'Algérie est alors un département français où vivent différentes tribus berbères que cherche à rencontrer Germaine Tillon.
Écoutez, quand je suis allée en Algérie, c'était en 34, j'y ai été vraiment par curiosité. Eh bien, j'étais tout de même à 14 heures de cheval d'une prise de courant, par exemple. Il est certain que j'avais évidemment aucun moyen d'éclairage, que j'ai habité pendant un certain temps sous une tente, mais c'était une tente qui était sur une pente extrêmement rude. Et sur laquelle, quand il pleuvait, ce qui n'arrivait pas souvent, mais quand ça arrivait, c'était très violent. Et moi, je me disais, bon, oui, mais là, je suis à côté d'une belle source, une source si belle. Elle était plus grosse que mon bras. Et elle jaillissait de rochers. Et il n'y a rien au monde de plus beau, de plus envoûtant, de plus enchanteur qu'une source qui sort d'un rocher. Dans un pays saharien, c'est une merveille du monde. Il y avait donc à ce moment-là deux populations. Une population qui était, disons, musulmane. C'était au fond à ce moment-là le caractère le plus marquant, parce que les gens ne se disaient pas algériens. Ceux qui se disaient algériens étaient d'origine européenne. Et ceux qui n'étaient pas d'origine européenne se disaient musulmans. Et bizarrement, les gens qui étaient d'origine européenne les appelaient les Arabes. Alors que la plupart n'étaient pas du tout arabes, et même quelques-uns ne savaient pas un mot d'arabe. Et ce qu'on leur appelait les tribus, j'ai plutôt envie d'appeler ça une petite république, car c'était déjà très démocratique. Bon, c'était donc une démocratie comme ont été les premières démocraties grecques, c'est-à-dire des clans qui sont d'unité familiale, obéissant aux représentants de l'ancêtre, et d'autant plus fort qu'ils ont beaucoup d'hommes armés. Pour les représenter.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Hey, deux, deux.
Les mots de l'actualité avec le CNDP, Yvan Amar.
Umberto Eco est mort et avec lui un écrivain extrêmement connu en Occident. Un écrivain, un érudit également, quelqu'un qui savait énormément de choses, qui lisait beaucoup, qui s'intéressait un petit peu à tout, un intellectuel, sémiologue, c'est-à-dire qui analysait comment on donne du sens à ce qui nous entoure, à ce qui se passe, comment on l'interprète, comment on peut le raconter. Alors, ce sémiologue était connu dans les milieux universitaires, mais pas tellement au-delà, jusqu'à ce qu'il écrive un roman paru en italien, qui était sa langue maternelle, en 1980, traduit en français en 1982. Ça s'appelle « Le nom de la rose » et ça a un succès extraordinaire. Alors, pourquoi « Le nom de la rose » comme titre à son roman médiéval? Ça se passe au Moyen-Âge. Hein. Est-ce qu'il faut donner un sens particulier au titre? Eh bien non, justement, disait l'auteur. Bien au contraire, la rose a tellement de significations symboliques qu'on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Alors attention, il ne faut pas exagérer. La rose, ce n'est pas très masculin. C'est une image qui plaît aux hommes, mais une image très féminine. C'est même la féminité même. La pureté, oui, parfois, et pourtant, elle a une odeur tellement capiteuse que c'est une odeur extrêmement enivrante, donc qui n'est pas si pure que ça. D'ailleurs, le langage des fleurs bien connu donne aux roses des significations différentes selon leur couleur. Par exemple, la rose rouge, c'est la passion. La rose blanche, c'est l'amitié, l'amour chaste, dit-on. La rose jaune, parfois le dépit amoureux, la jalousie ou le désir de se faire pardonner quelque entorse. Et puis la rose rose, c'est la douceur, la tendresse, etc. Alors on voit bien que ce fameux langage des fleurs n'est pas un vrai langage, c'est un code. Assez simple. Mais il est vrai que la rose peut évoquer des idées différentes, contradictoires. Les expressions qu'il utilise sont nombreuses. Alors, la rose évoque souvent la jeunesse, la beauté, la fraîcheur, même si tout cela est tout à fait éphémère. Mais en même temps, bien que beaucoup d'images liées à la rose soient positives, on l'utilise très souvent dans des expressions au rebours de ses premières évocations. Par exemple, on sait que la rose sent bon. Eh bien, on dira « ça sent pas la rose » pour dire « ça sent mauvais ». Et quand on parle par exemple de romans à l'eau de rose, cela évoque des romans un peu mièvres, un peu mignards. Ça sert à qualifier des histoires avec des personnages stéréotypés, des intrigues prévisibles. Les romans à l'eau de rose caressent les lecteurs et les lectrices dans le sens du poil. C'est un succès facile. Hein. Et puis un bâton ayant toujours deux bouts, le deuxième est souvent moins flatteur que le premier. Et on dit « il n'y a pas de rose sans épines », phrase proverbiale qu'on prononce pour dire que une bonne chose ou une bonne situation cache bien souvent un mauvais côté, un pendant négatif qui vient contredire le premier.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar.
Umberto Eco est mort et avec lui un écrivain extrêmement connu en Occident. Un écrivain, un érudit également, quelqu'un qui savait énormément de choses, qui lisait beaucoup, qui s'intéressait un petit peu à tout, un intellectuel, sémiologue, c'est-à-dire qui analysait comment on donne du sens à ce qui nous entoure, à ce qui se passe, comment on l'interprète, comment on peut le raconter. Alors, ce sémiologue était connu dans les milieux universitaires, mais pas tellement au-delà, jusqu'à ce qu'il écrive un roman paru en italien, qui était sa langue maternelle, en 1980, traduit en français en 1982. Ça s'appelle « Le nom de la rose » et ça a un succès extraordinaire. Alors, pourquoi « Le nom de la rose » comme titre à son roman médiéval? Ça se passe au Moyen-Âge. Hein. Est-ce qu'il faut donner un sens particulier au titre? Eh bien non, justement, disait l'auteur. Bien au contraire, la rose a tellement de significations symboliques qu'on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Alors attention, il ne faut pas exagérer. La rose, ce n'est pas très masculin. C'est une image qui plaît aux hommes, mais une image très féminine. C'est même la féminité même. La pureté, oui, parfois, et pourtant, elle a une odeur tellement capiteuse que c'est une odeur extrêmement enivrante, donc qui n'est pas si pure que ça. D'ailleurs, le langage des fleurs bien connu donne aux roses des significations différentes selon leur couleur. Par exemple, la rose rouge, c'est la passion. La rose blanche, c'est l'amitié, l'amour chaste, dit-on. La rose jaune, parfois le dépit amoureux, la jalousie ou le désir de se faire pardonner quelque entorse. Et puis la rose rose, c'est la douceur, la tendresse, etc. Alors on voit bien que ce fameux langage des fleurs n'est pas un vrai langage, c'est un code. Assez simple. Mais il est vrai que la rose peut évoquer des idées différentes, contradictoires. Les expressions qu'il utilise sont nombreuses. Alors, la rose évoque souvent la jeunesse, la beauté, la fraîcheur, même si tout cela est tout à fait éphémère. Mais en même temps, bien que beaucoup d'images liées à la rose soient positives, on l'utilise très souvent dans des expressions au rebours de ses premières évocations. Par exemple, on sait que la rose sent bon. Eh bien, on dira « Ah, ça sent pas la rose !» pour dire « ça sent mauvais ». Et quand on parle, par exemple, de roman à l'eau de rose, cela évoque des romans un peu mièvres, un peu mignards. Ça sert à qualifier des histoires avec des personnages stéréotypés, des intrigues prévisibles. Les romans à l'eau de rose caressent les lecteurs et les lectrices dans le sens du poil. C'est un succès facile. Hein. Et puis un bâton ayant toujours deux bouts, le deuxième est souvent moins flatteur que le premier. Et on dit « il n'y a pas de rose sans épines », phrase proverbiale qu'on prononce pour dire qu'une bonne chose ou une bonne situation cache bien souvent un mauvais côté, un pendant négatif qui vient contredire le premier.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. première écoute.
Nairobi, la capitale du Kenya, souffre d'un manque d'eau récurrent malgré son climat humide. Selon les Nations Unies, le Kenya voit son approvisionnement en eau diminuer chaque année de 62 millions de mètres cubes, et ceci depuis plus d'une dizaine d'années. La raison de ce manque d'eau, malgré les pluies fréquentes, est à chercher du côté du mont Kenya, l'un des principaux bassins versants du pays, et surnommé pour cette raison le château d'eau. Envolons-nous avec Bob Oguya, un responsable environnemental, afin de comprendre le problème.
C'est l'une des régions qui ont été déboisées. Vous voyez cette zone sans arbres. C'est ce qui affecte le bassin versant. C'est d'ailleurs ici que nous allons replanter des arbres demain. Ici, vous voyez la zone que nous avons reboisée depuis 2001.
Des ONG et des sociétés privées se sont unies pour financer la reforestation. Le Kenya a perdu 98% de sa forêt. Aussi, les autorités se sont fixé le but d'en reboiser 10% en plantant 50 millions d'arbres. Ceci permettra de rééquilibrer le système hydrologique des bassins versants et de retrouver un approvisionnement suffisant en eau.
La forêt stoppe l'érosion des sols et maintient le cycle des pluies. C'est aussi un habitat pour les animaux.
Les arbres sont essentiels pour le cycle de l'eau. En fait, ils retiennent l'eau de pluie et la transforment en vapeur, ce qui crée de la pluie supplémentaire. Les arbres aident aussi à faire pénétrer l'eau dans le sol et dans les nappes phréatiques. On a ainsi de l'eau potable, une réduction des inondations et des terres propices aux cultures pour les populations locales.
Dans les zones déjà reboisées, on peut constater les bénéfices de cette reforestation massive.
Cette rivière avait quasiment disparu. Il n'y avait plus qu'un filet d'eau qui coulait ici. Ces 10 dernières années, nous avons replanté la végétation et vu augmenter le niveau de la rivière. Les animaux sauvages et les troupeaux domestiques ont maintenant suffisamment d'eau.
Cet élevage de poissons est l'une des preuves flagrantes d'un cycle de l'eau de retour à la normale. Après des années d'inactivité dues au manque d'eau, la production est aujourd'hui à son maximum et alimente en truites les touristes et les habitants du mont Kenya.
Vous avez 2 minutes avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Nairobi, la capitale du Kenya, souffre d'un manque d'eau récurrent malgré son climat humide. Selon les Nations Unies, le Kenya voit son approvisionnement en eau diminuer chaque année de 62 millions de mètres cubes, et ceci depuis plus d'une dizaine d'années. La raison de ce manque d'eau, malgré les pluies fréquentes, est à chercher du côté du mont Kenya, l'un des principaux bassins versants du pays, et surnommé pour cette raison le château d'eau. Envolons-nous avec Bob Oguya, un responsable environnemental, afin de comprendre le problème.
C'est l'une des régions qui ont été déboisées. Vous voyez cette zone sans arbres. C'est ce qui affecte le bassin versant. C'est d'ailleurs ici que nous allons replanter des arbres demain. Ici, vous voyez la zone que nous avons reboisée depuis 2001.
Des ONG et des sociétés privées se sont unies pour financer la reforestation. Le Kenya a perdu 98% de sa forêt. Aussi, les autorités se sont fixé le but d'en reboiser 10% en plantant 50 millions d'arbres. Ceci permettra de rééquilibrer le système hydrologique des bassins versants et de retrouver un approvisionnement suffisant en eau.
La forêt stoppe l'érosion des sols et maintient le cycle des pluies. C'est aussi un habitat pour les animaux.
Les arbres sont essentiels pour le cycle de l'eau. En fait, ils retiennent l'eau de pluie et la transforment en vapeur, ce qui crée de la pluie supplémentaire. Les arbres aident aussi à faire pénétrer l'eau dans le sol et dans les nappes phréatiques. On a ainsi de l'eau potable, une réduction des inondations et des terres propices aux cultures pour les populations locales.
Dans les zones déjà reboisées, on peut constater les bénéfices de cette reforestation massive.
Cette rivière avait quasiment disparu. Il n'y avait plus qu'un filet d'eau qui coulait ici. Ces 10 dernières années, nous avons replanté la végétation et vu augmenter le niveau de la rivière. Les animaux sauvages et les troupeaux domestiques ont maintenant suffisamment d'eau.
Cet élevage de poissons est l'une des preuves flagrantes d'un cycle de l'eau de retour à la normale. Après des années d'inactivité dues au manque d'eau, la production est aujourd'hui à son maximum et alimente en truites les touristes et les habitants du mont Kenya.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.